parole rurale, l'émission de reportage à la rencontre des paysans qui nous entourent.
Ou le quotidien en milieu rural raconté par ceux qui le vivent.
Aujourd'hui, nous nous rendons chez Louis Cabroquès, qui est également un brebis laitière.
Je m'appelle Loïc Rines, j'habite au Solviel, sur la commune de Broquies. Je suis agriculteur, éleveur, producteur au vin lait. Je me suis installé en 2017. J'ai repris l'exploitation de mon père, de mes parents. Ça faisait de nombreuses années que voilà, je voulais m'installer. J'ai pas appris ce métier. Après l'école, après la troisième, j'étais parti dans l'apprentissage pour être carrossier peintre. Et donc en 2014, j'ai fait une demande à mon patron à l'époque pour faire une formation adulte sur 10 mois.
Qu'est-ce qui t'a motivé à changer de voie comme ça ?
En fait, depuis gamin, c'est un métier qui me plaît, quoi. Surtout le contact avec les animaux. J'ai tout le temps accompagné mes parents, ma mère. À l'époque, ils avaient des porcheries. Hein. On était donc naisseurs et engraisseurs en cochon, plus la production brebis laitière. Et voilà, c'est toujours un souhait de ma part. Après, les années passent. On s'approche, quand je me suis approché à peu près après de la trentaine, voilà, on réfléchit, on se dit peut-être qu'il faudrait franchir le pas. Et voilà, un événement aussi personnel, un accident qui m'a fait qu'on réfléchit, on se dit que voilà, ça tient à rien. Et des fois, il faut faire les choses, il ne faut pas avoir de regrets, il faut franchir le pas. Donc voilà, après, voilà, en 2014, j'ai décidé de me lancer. Mon père, il m'a dit, bah, écoute, si vraiment ça te tient à cœur de t'installer, bah, moi, c'est à moi d'aller travailler à l'extérieur, je te laisse ma place. Ça, je trouve que c'est très honorable de sa part. Il est parti, lui, faire sa formation à poids lourd pour être chauffeur et voilà, repasser les permis. Et moi, j'ai pu m'installer ici, au Solviel. Je suis marié à Mélissa et on est natifs tous les deux de la commune de Broquies. On se connaît depuis qu'on est gamin. Et on a deux enfants, Tom qui est né en 2017 et Amaya en 2020. Bon, aujourd'hui, je suis installé seul, accompagné dans le projet, elle m'a soutenu. Je suis producteur, éleveur au vin lait. Produit du lait pour la laiterie Papillon à Villefranche-de-Pana. J'ai repris l'exploitation en 2017, j'avais 48 hectares, 250 brebis à la traite avec un volume de lait à produire de 700 hectos. J'ai attaqué comme ça jusqu'en 2020 où le père de Mélissa, mon beau-père, donc, a pris la retraite. C'est une exploitation qui est située à 5 km d'ici, à le lieu-dit Robertcourt. Et j'ai pu agrandir notre exploitation de 37 hectares SAU de plus. Donc aujourd'hui, on est à environ 82 hectares SAU. Cette année, je traite 300 brebis à peu près et, voilà, pour un volume à produire de 2200 hectos.
En arrivant, on a vu une bergerie toute neuve, elle est à toi ?
Voilà, ouais, c'est la bergerie toute neuve, elle est là. On est en conventionnel. Notre système, il est silage herbe, foin et un peu de production de céréales. Donc sur les 80 hectares SAU, je fais une douzaine d'hectares de céréales chaque année.
SAU, ça veut dire quoi pour...
SAU, surface agricole utile.
Ok, merci.
Voilà. Et en année normale, est-ce que tu es autonome ?
Oui, je suis autonome, oui. En fourrage, je suis autonome. Après, où je ne suis pas autonome, c'est la paille. La paille, non. Je ne fais pas assez de surface de céréales pour être autonome en paille. J'en achète. Je disais qu'on était en ensilage, donc moi, mon système, c'est j'ai une bol mélangeur pour leur donner. Donc le matin après la traite, je prépare le bol. Actuellement, la ratio, c'est du foin de luzerne, deuxième ou troisième coupe. Après, de l'ensilage herbe, du maïs que j'achète en grains et un peu de drèche de maïs aussi. S'il manque un peu de fibres, si le foin, il manque un peu de foin, on leur ajoute un peu de paille d'orge pour les faire ruminer, pour bien faire fonctionner le rumen. Voilà.
bien faire fonctionner quoi ?
Le rumen de la brebis.
Tu peux me dire ce que c'est ?
Le rumen de la brebis, c'est l'estomac, en fait. C'est le système de digestion de la brebis. En fait, il faut qu'il y ait de la fibre. Pour que ça aille piquer, on appelle ça de faire fonctionner le rumen pour qu'elle vienne à bien ruminer et digérer mieux. Sinon, elle sera en acidose, c'est-à-dire des diarrhées. Voilà. Et après, on peut avoir un souci au niveau de la santé de l'animal. Quoi. Puis, suivi par Confédération pour le suivi troupeau. Donc j'ai une technicienne qui vient régulièrement sur mon exploitation et du coup, on fait l'alimentation ensemble. On regarde les besoins de la brebis à ce stade physiologique, c'est-à-dire à ce stade corporel, si elle est en forme, si elle est un peu maigre, si voilà. Mais ça, on parle surtout sur le troupeau lui-même, on fait une note. Notre objectif en début de campagne, laitière, ben, notre souhait, si on, voilà, 3 litres, un peu plus de 3 litres, 3 litres et demi. Et donc là, et bien, en face, il faut donner ce qu'il faut. On fait l'alimentation ensemble.
Mais c'est pas en fonction de ton stock ?
Et il y a aussi la fonction du stock. Cette année, on, voilà, comme tout le monde le sait, enfin, voilà, on a eu une grosse sécheresse. On a rentré, enfin, moi pour ma part, je pense que j'ai rentré un bon tiers de moins à un foyer. L'ensilage, on a rentré ce qu'il fallait, parce qu'avec ce système-là, l'avantage c'est de pouvoir faucher de bonne heure. On fauche, c'est du Reira, donc, en majorité, un peu de luzerne aussi, que j'ai fauché, que j'ai mis dans le silo, mais c'est vrai que nous, du coup, on fauche de bonne heure, c'est-à-dire fin avril, les dernières semaines d'avril, on attaque de faucher. Quoi. Ce qui nous permet au moins d'avoir une seconde un peu plus tôt. Si on a un peu de pluie, des fois début avril, début mai, et bien ça nous aide, quoi, faire une seconde coupe. Cette année, on ne l'a pas eu. Cette cuillère et pendant un moment.
Ouais. Tout à l'heure, tu parlais du plaisir de travailler. Tu peux nous dire quelles sont les sources de satisfaction dans ton travail, au niveau économique, au niveau du plaisir à travailler, et peut-être aussi de ton équilibre de vie pour ta famille, ton couple, tes loisirs personnels.
Oui, moi, voilà, comme je présentais au début, j'ai pas fait ce métier toute ma vie. Aujourd'hui, je vais avoir 40 ans. Je suis installé depuis 2017, ça va faire 6 ans que je suis installé. Moi je sais ce que c'est d'être employé, ouvrier, avoir des heures fixes à faire, des jours où travailler. C'est bien, ça a un avantage aussi d'avoir les week-ends. Mais le métier d'agriculteur, c'est aussi cet avantage de gérer son temps en fait. C'est vrai qu'on est dépendant beaucoup des bêtes, et on est là, ben, c'est 7 jours sur 7. Et bon, ben, pas 24 heures sur 24, mais bon, il faut être présent quand même. Mais j'ai ce plaisir-là de m'organiser mon temps, de travailler avec des bêtes, faire un métier qui me plaît, travailler à l'extérieur aussi. Ça, c'est un plaisir. Aujourd'hui, je décide d'aller faire du bois, je fais du bois. Si y a du travail dans les champs, je vais m'aérer, enfin, faire du travail dans les champs. Le lendemain, ce sera plus au contact avec des bêtes ou faire un peu de mécanique aussi. Ce métier d'agriculteur éleveur, c'est un métier, c'est vrai, mais il y a plein de petits métiers à côté qui raccrochés, quoi. C'est diversifié, c'est ça. Je dirais qu'en fait, le plaisir de ce métier-là, c'est pas monotone. Voilà, on ne fait pas toujours les mêmes choses.
Est-ce que tu peux prendre des loisirs, des congés avec ta famille ?
Alors oui, on y arrive, oui. On y arrive.
Est-ce que tu trouves quelqu'un pour te remplacer ?
Oui, on y arrive à prendre du temps. Moi, je me libère du temps pour, sans parler de vacances, c'est déjà rien que dans des semaines normales, je m'organise pour passer du temps avec mes enfants, ma famille. Le mercredi et le week-end, il n'y a pas école. Donc... en saison creuse, je dirais, comme maintenant, hein, on est fin janvier, il n'y a pas le travail dans les champs ni rien, donc je me garde le travail. S'il y a du fumier à sortir à la bergerie et tout, je ne le ferai pas un mercredi ou un week-end, je vais le faire plutôt quand les enfants ne seront pas là, soit à l'école. Donc oui, je m'organise comme ça. Après, pour les congés, on arrive à partir une semaine à l'été, une semaine à l'hiver, se faisant remplacer, soit par un copain un voisin. Il vient me remplacer. Mon beau-père aussi peut être là aussi pour m'aider. Et puis j'ai ma mère qui travaille à l'extérieur, mais travaille, elle est là, elle nous aide vraiment tous les jours, quoi, beaucoup, quoi. C'est un plus, c'est énorme.
Tu nous as pas parlé de ta femme, de ta compagne. Est-ce qu'elle travaille avec toi ou à l'extérieur?
Alors, elle travaille à l'extérieur. Elle a vu que finalement, ce métier d'agriculteur, c'est pas mal aussi. Mais de toute façon, bon, les filles d'agriculteurs, c'est ce que c'est. Elle va s'installer avec moi, on va créer un grec. Travaillait avant dans les grandes surfaces. Elle avait des horaires compliqués pour les enfants. C'est vrai que ce métier d'agriculteur, comme je disais, on peut s'organiser. Voilà, on arrive à sortir mon salaire. Demain, on arrivera à sortir de salaire pour mon épouse aussi. Il va lui emprunter. J'ai emprunté quand je me suis installé en 2017 pour acheter le cheptel, racheter du matériel. Puis j'ai fait la bergerie, donc j'ai re-emprunté pour faire la bergerie, là, neuve. C'est vrai que ça fait de l'argent emprunté. Financièrement, par là, on a une période aujourd'hui, si on est dans le doute, pas le plein de doute, c'est compliqué avec l'augmentation des charges, l'aliment qu'on peut dire presque double. Les engrais ont doublé.
Le carburant.
Faire des jours meilleurs pour pouvoir se projeter plus à l'avenir. Moi, aujourd'hui, je touche 47 000 euros d'aide PAC. Toutes comprises, elles, toutes les aides. C'est pareil, le chiffre d'affaires de l'exploitation, c'est une bonne partie, oui.
Et est-ce qu'en écho ou en échange, tu as beaucoup de contraintes qui sont imposées par l'Europe?
Pour tourner les rotations, les prairies longues durées, pour le droit ou pas de labourer, il faut toujours faire gaffe. On est après, moi aussi, je suis en zone vulnérable. Donc le cahier d'épandage, au niveau du fumier, des engrais, il faut tout noter, il ne faut rien oublier. C'est une charge de travail en plus qui est prenante aussi. C'est du temps passé, c'est des peurs de faire des oublis. C'est ce que je dirais qui est compliqué, c'est ça. C'est suivre les dossiers, remplir les choses bien comme il faut. C'est, voilà. Bon, après, moi, pour ma part, la déclaration PAC, je le fais avec le CER, avec ma comptable, qui m'aide parce que voilà, seul, je ne me sentirais pas capable de le faire.
Est-ce qu'il y a du réseau de solidarité entre agriculteurs?
Oui, il y aurait du soutien, je pense. Moi, je sais que si demain, il peut m'arriver un coup dur, déjà nous, entre nous, ici, agriculteurs, on a un soutien, j'aurai une aide de suite qui viendra demain frapper à ma porte si je suis dans la galère. Tout comme moi, je le ferais si un voisin, un ami, demain, il arrive quelque chose pour aller l'aider sur son exploitation. Quand l'État, aujourd'hui, dit on a aidé les agriculteurs pour passer la sécheresse et ça chiffre à millions d'euros, c'est aux yeux du grand public, c'est de suite, je sais pas, ça nous dévalorise aussi parce que ça, et pour eux, on nous aide tout le temps. On leur donne que des gros chiffres, mais ramener à l'exploitation, c'est pas beaucoup. Moi, pour savoir, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai perdu un tiers de mon stock fourrage et tout, il m'a fallu acheter du foin, un peu. Bon, pour sécuriser, vraiment, j'ai pas eu 1700 euros d'aide. À 1700 euros, on n'achète pas un camion de foin, quoi. Aujourd'hui, on parle beaucoup du bien-être animal. L'agriculteur, ça coûte pour nous aussi, le bien-être animal. Il faut que la brebis elle soit bien pour qu'elle nous le rende bien aussi. Mais il y a des moments où, l'animal, il faut le vendre, il faut qu'il aille à l'abattoir. Voilà, ça, tout ça, ça fait partie de la chaîne alimentaire. Et voilà.
Tu vends où tes produits?
Je vends donc les agneaux annuelés à l'âge d'un mois. Je fais pas, je n'engraisse pas les agneaux, moi. Je les vends à des grossistes qui eux, le feront, à engraisser les agneaux. Les brebis réformes et puis les derniers lots d'agneaux, je vais au marché au vin, à Requista. Je charge nos animaux, ils sont pesés, ils sont allotés en lot, en un numéro de lot, et après, les marchands passent devant les lots. Donc, nous, on a un système lait hâtif, c'est-à-dire qu'on nettoie les brebis à la lutte et je fais insémination artificielle au mois de mai. Ensuite, ces mois de gestation, à moins d'une semaine, et bien, elles le mettent bas. Ça arrive début octobre. Là, les mises bas durent une petite semaine, là où il faut être présent. J'ai presque 24 heures sur 24, il faudrait qu'il y ait quelqu'un à la bergerie. Donc, on fait un roulement avec ma mère, mon épouse et moi. Pour qu'il y ait tout le temps quelqu'un auprès de la bergerie, même les nuits. Voilà, il y a les mises bas sont là. On ferme les brebis individuellement avec leur agneau pendant quelques heures. Et après, on ralote un petit lot de 15-20 brebis. Et voilà, et au bout de quelques jours, après, on remet toutes les brebis ensemble avec leur agneau. Et voilà, ça dure une semaine, leur plus gros lot. Et nous vendons les agneaux donc un mois plus tard. Ça, c'est une obligation du cahier des charges de la OP Roquefort. de laisser les agneaux sous la mer un mois. Et à partir de là, début novembre, nous attaquons de traire. Après, jusqu'à fin juin. On fait l'insémination pour le plus gros lot. Et après, les autres viennent en chaleur naturellement. Et après, on met le bélier en bergerie. Et voilà. Donc après, tout l'hiver, jusqu'à fin février, il y a les agneaux qui naissent en bergerie. C'est vrai qu'on est peut-être dans un tournant où il y a des choses qui peuvent, enfin, déjà au niveau climatique, qui nous mènent à réfléchir autrement. Peut-être semer d'autres variétés de plantes qui sont plus robustes à la sécheresse, pour arriver à rentrer des stocks, et même en période de sécheresse, du moins au moins que la plante ne meure pas. Moi, mon mode de travail, de production et tout, aujourd'hui, j'ai pas envie de le changer. J'ai trouvé mes marques, je pense que ça marche. Voilà, j'ai envie de continuer dans ce sens-là, travailler avec la fromagerie Papillon à Villefraîche. Moi, je fais partie du GIE, c'est un groupement de producteurs. En fait, les producteurs de papillons, on s'est monté un GIE pour pouvoir discuter tous ensemble face à la laiterie, pour négocier nos prix et tout. Et je pense que là, il y aura un gros travail quoi, à faire là-dessus. Quoi. Je pense qu'il faut valoriser un peu plus notre travail.
Tu n'envisages pas de toi-même revaloriser en transformant ?
Non. Non, parce que c'est un travail différent, c'est un travail en plus. Valoriser, c'est aussi un investissement qu'il faut penser en plus, faire du fromage ou faire des yaourts ou faire autre chose. Il y a déjà du monde qui le fait. Après, est-ce qu'il y a encore de la place pour quelqu'un d'autre? Je sais pas. Voilà, non, c'est pas mon domaine. Et puis après, il faut le vendre, le produit.
Est-ce que tu aimes ton métier? Est-ce que tu le conseillerais à tes enfants?
Oui, j'aime mon métier, oui. Je ne regrette pas de m'être installé. Je ne regrette pas qu'aujourd'hui, mon épouse a envie de s'installer aussi avec moi. Que ça soit familial aussi. Mes enfants, aujourd'hui, bon, ils sont petits encore, mais si demain ça les intéresse, je dirais de toute façon que je travaille dans ce sens-là, que mon exploitation soit pérenne dans l'avenir et que si quelqu'un veut le reprendre, elle soit en bonne santé pour pouvoir faire travailler encore et longtemps sur les terres d'ici, du Solviel et de Roberco, les terres familiales. Quoi. Moi, j'y crois dans ce métier. Je pense qu'il y a de l'avenir, c'est certain, parce que on voit que des reprises et des fermes s'arrêtent et il n'y a pas de reprise derrière. Et c'est dommage qu'une petite exploitation s'arrête pour faire en fait, elle va aller agrandir une autre exploitation. C'est dommage que ça parte de ce sens-là. Alors que je pense qu'aujourd'hui, on peut faire installer des couples. Ça amènera des jeunes. Si les jeunes couples reprennent une exploitation, avec des enfants.
Les chauffeurs et sous la pluie, la neige ou le vent. Notre passion, notre métier se vit au milieu des champs. À la fraîche, au petit matin, le coq nous clame ses chansons. L'année prochaine, oui, c'est certain, il remportera l'Eurovision. On ne redoute pas le labeur. De pâturage en pâturage, aux petits soins pour nos bovines, les cloches entonnent sur les collines, la mélodie de nos campagnes. La nature nous donne cette envie de croire en notre avenir. Ce terroir nous a vu grandir, on lui consacre notre vie. Trier les lentilles à côté du puits envolé, avec le cou déjà levé, y aura Jim, notre vedette. On t'attendra de l'île à la buvette. On se couchera à point d'heure, sans le pire, juste le meilleur. La terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs.
Ouais, voilà, là on arrive à la bergerie. Là, c'est la pièce, le sas. C'est une pièce, vous voyez, là, il y a voilà, le lavabo, le lave-main, des stocks de la lessive pour nettoyer la machine à traire. La pharmacie pour le traitement des brebis ou des agneaux quand ils sont quand ils, s'il y a besoin.
Qu'est-ce que tu leur donnes comme traitement ?
Après, il y a des traitements, bon, il y a les vaccins. Nous, on vaccine les agnelles, surtout les petites agnelles, donc renouvellement.
Contre quoi vous les vaccinez ?
C'est surtout des maladies pour l'avortement, en fait, pour pas qu'elles avortent.
La fièvre cul ?
Moi, la fièvre cul, je la fais pas, je la fais plus, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le coin.
Ouais.
C'est un produit, c'est un vaccin qui coûte cher. Donc moi, ça fait 2 ans que je le fais plus. Après, je fais la chlamydiose et la toxo.
D'accord.
Voilà. Ça, c'est 2 vaccins qu'on fait sur les jeunes, sur les agnelles. Et ensuite, il y a les antibiotiques, des fois, de temps en temps. Si les brebis, une brebis qui fait une mammite, quelque chose comme ça, ou un agneau qui est malade, voilà, on a toujours quelques antibiotiques.
En curatif, tu fais pas de préventif ?
Non, ah non, non, antibiotiques, pas de préventif, hein. Non, que du curatif. Ici arrive le lait de la traite, passe, arrive dans ce globe, et de par ce tuyau arrive jusqu'ici le tank, où il est réfrigéré à 4 degrés. Donc l'AOP Roquefort exige ce que le lait soit ramassé tous les jours. Voilà, donc il y a la traite du soir et la traite du matin. Et le laitier, le camion, vient ramasser le lait le matin. On note le volume sur le calendrier, tous les matins, le volume qu'il y avait dans le tank.
Donc là, 550, 560, voilà. C'est pour combien de bêtes là, que tu as ?
Là, il y a 290 bêtes à la traite. Le prix de base, il est à 1 100 € les 1000 litres. Ça fait 1,10 €.
D'accord.
Le litre de lait. Ça, c'est le prix de base. Après, il y a plein de critères qui rentrent en jeu avec des primes ou des pénalités sur la qualité du lait. On les sort en pâturage dès que le temps le permet. Alors, nous, sur la commune ici, sur Broquès, il peut arriver que fin février, on commence à sortir les brebis. Quoi. S'il y a de l'herbe et que le temps le permet, qu'il fasse des températures un peu douces, on attaque à sortir les brebis. Et à partir de là, on les sort tous les jours. Si le temps le permet, s'il ne pleut pas, voilà. Ça, c'est pareil, c'est l'obligation par rapport à l'AOP Roquefort, le pâturage au maximum.
Et alors en quoi tu es loin d'une pratique bio, parce que quand même tes brebis sortent, tu leur donnes des éléments plutôt naturels, peu d'antibiotiques.
J'utilise de l'engrais, de l'ammonitre, pour augmenter la production en herbe au printemps. Donc voilà, je ne suis pas bio. J'utilise aussi des désherbants ou des traitements sur les céréales pour les maladies, contre les maladies. Après, je suis en agriculture raisonnée, on va dire, du conventionnel raisonné. Je ne vais pas désherber s'il n'y en a pas besoin. Je vais plutôt faucher plus tôt les luzernes et pour tuer la mauvaise herbe et la seconde coupe sera que plus belle. Je vais pas, voilà, j'utilise les produits vraiment si nécessaire. Enfin, c'est ma façon de penser. Et puis, ouais, ça en coûte aussi tout ça. On lève le pied, quoi. À la salle de traite. Donc voilà, c'est tout neuf. C'est un système d'Eurostal. Il y a 24 postes de chaque côté. Donc, les brebis rentrent là-bas par le bout. Les robots montent jusqu'ici. Et la brebis s'accroche là, quand l'aliment tombe, le robot lit sa médaille, reconnaît la brebis laquelle c'est, et donnera la quantité d'aliments qu'on aura choisi au préalable. C'est-à-dire que plus la brebis est bonne laitière, plus elle aura d'aliments.
C'est-à-dire que c'est une récompense qui va lui permettre d'avoir encore plus de lait ou...
Oui, c'est par rapport à ses besoins aussi.
D'accord.
Voilà. Si une brebis qui a 3 litres, on va y donner pour une brebis qui a 3 litres. Mais celle qui est réca 2 litres, elle aura moins d'aliments. Et voilà, et ce robot se décale, chaque brebis qui est attachée se décale pour finir au bout là-bas. Et voilà, et nous à partir de là, on les branche pour les traire. Et, 24. Il y a un décro automatique en fait. On choisira un temps de traite
fait combien de minutes là?
Alors en début de campagne, quand on attaque, elles sont à 3 litres 2, on met 3 minutes de traite. Et au bout de 3 minutes de traite, le faisceau se décroche de la mamelle de la brebis et se tourne par le bras, se tourne et va de l'autre côté sur le second quai pour traire les autres brebis qui sont en attente sur ce côté-là. Et plus on avance sur la campagne laitière, plus la brebis naturellement va baisser en production de lait et nous diminuerons le temps de traite. Toutes vont monter et elles s'accrocheront une par une.
Là, il monte. Nous suivons le robot. Brebis numéro 1, Christian. On va voir combien elle va se donner.
Voilà. Une fois qu'il est au bout, là, la porte s'ouvre. La brebis était en attente derrière. Elle va passer, contourner le robot pour pouvoir s'accrocher. Et elle s'accrochera ici.
D'accord.
Voilà. Et là, c'est une antenne qui va lire la médaille de la brebis et qui va l'afficher à l'ordinateur qui est au bout là-bas. Et donc, on aura à l'ordinateur le numéro de la brebis et ça nous permet de connaître sa production laitière, parce qu'on l'aura enregistrée auparavant, et la quantité d'aliments qu'on lui donne.
Mais c'est toi qui vas le choisir au bout ou c'est la machine qui fait tout là-bas?
Non, c'est nous qu'on choisit. En fait, on crée des lots. Les meilleures brebis, nous, on a créé 4 lots par exemple là. Il y a les meilleures brebis, les moins bonnes, les moyennes et les vraiment pas bonnes, et qu'elles n'auront pas grand chose comme aliment.
Ah, un bel bergerie, hein?
Ouais, ouais. Donc voilà. On arrive à la bergerie, donc avec un système de couloir qu'on a fait autour. Ça, c'est très utile pour les mises bas. Bon, on s'en sert quasiment toujours des couloirs, mais. Lors des mises bas, c'est bien sympa parce que ça nous permet de contrôler si c'est des brebis qui ont fait l'agneau ou pas, sans rentrer dans les aires paillées. Voilà. Donc après des tapis d'alimentation. Voilà, avec le bol, on avance au bout et on donne et ça avance au fur et à mesure.
Tu les charges comment?
Le tapis?
Oui.
C'est avec le bol mélangeur. C'est lui, il est équipé aussi d'un tapis roulant. Et il va faire tomber l'ensilage, avec mélangé avec le foin, tout, directement sur le tapis. La bergerie est équipée d'une ventilation dynamique, 3 ventilateurs et des volets d'entrée d'air qu'il y a en face. Et ça va se gérer tout seul, ça. En fait, si la température augmente, nous, on a mis une plage de température à laquelle on veut qu'elle soit, à l'intérieur.
Et comment tu fais pour les mouches?
Les mouches? Ah, mais ça, les mouches, il y en a toujours. Et je crois que ça, c'est une espèce qu'on n'a pas en voie de disparition.
Et pour la laine?
Et bon, mais la laine, on les tond une fois par an. On les tond, moi, c'est au mois d'avril, par là, au printemps. Et on fait aussi les parages des anglons. Moi, je le fais faire avec une entreprise extérieure qui vient. On passe une matinée, on attrape toutes les brebis. Et eux, ils sont 3 à couper les onglons des brebis. Donc la laine, c'est un produit qui intéresse pas grand monde aujourd'hui. L'an dernier, on est arrivé à la vendre, la donner quoi. Le monsieur, il était bien content, on était bien content qu'il la prenne. Et ça, on avait 2 ans de stock parce que l'année d'avant, personne ne la voulait. Donc voilà, c'est pas un produit qu'on valorise, on les tond parce qu'il faut les tondre et puis la laine elle est là, voilà. Donc nous on est un groupe de jeunes agriculteurs sur la commune avec qui on s'entend bien, on est des copains, voilà, on partage pas mal de choses et c'est vrai que c'est... Et puis on se dit les choses, quand ça va mal ou pas, c'est un peu la différence. Je sais pas, j'ai le sentiment que les anciens le faisaient peut-être un peu moins, mais nous, si on a un souci sur les brebis ou quoi, voilà, ça peut arriver à tout le monde. On en parle, on échange justement. Au moins, ça nous permet de ne pas être seul aussi, des fois, dans la galère. Et puis on se raconte que finalement, ça arrive à nous, mais ça arrive aussi aux autres. Et ça permet d'échanger et des fois d'arranger, de se donner des idées pour arranger les soucis, quoi.
On te remercie, Loïc, ainsi que Mélissa, de nous avoir reçus sur votre exploitation.
Bien maintenant, amis de Radio Sainte-Afrique, l'été. Nous vous retrouvons le 5 septembre en compagnie de Philippe, éleveur brebis à Mont-Laure. Profitez bien, rencontrez, si vous le pouvez, maraîchers, agriculteurs, apiculteurs, éleveurs durant l'été et régalez-vous bien.